Tout d'abord, il est très difficile de passer derrière le docteur Robin.
Surtout quand il s'appelle.
Le micro aussi. Le docteur Sentinelle étant la première de nos sentinelles. Nous voyons très souvent arriver dans nos cabinets des jeunes, des enfants qui sont en souffrance à cause de leur écriture, notamment des enfants à haut potentiel. Les origines sont multiples, mais la conséquence est unique. La trace laissée sur le papier est en décalage face à leur potentiel. D'une écriture trop lente, crispée, à une écriture illisible, les manifestations sont diverses. Alors notre mission est alors d'aider le jeune à le réconcilier avec l'écriture. Alors la conciliation, c'est le bon fonctionnement du couple indissociable de l'écriture et du scripteur, gage d'un apprentissage réussi. Tout le monde sait que l'apprentissage de l'écriture est des plus difficiles. C'est très compliqué d'apprendre à écrire. Et qu'est-ce que c'est qu'apprendre à écrire? Eh bien, c'est faire des efforts, c'est se concentrer, c'est contrôler sa posture, ne pas perdre de temps à chercher ses affaires, écouter, accepter les consignes. C'est aussi prendre des risques, et plus particulièrement celui de se tromper, d'être imparfait. L'enfant apprend par essai-erreur. Et puis un jour, l'essai est transformé et il réussit. C'est aussi modifier peu à peu ses habitudes, c'est-à-dire savoir s'adapter à des exigences qui évoluent. C'est encore avoir une maturité affective suffisante. L'apprentissage du langage écrit est moins immédiat que celui du langage oral, moins valorisant aussi. L'apprenant se rend compte alors de la distance qui le sépare du savoir écrire des adultes. Beaucoup l'acceptent, beaucoup persévèrent, d'autres moins. Si nous parlons aujourd'hui d'une réconciliation avec l'écriture chez les enfants au potentiel, c'est que la conciliation est partiellement faite, ou bien pas du tout. En un mot, l'enfant n'est pas rentré dans cet apprentissage long et fastidieux qu'est celui de l'écriture. Bien souvent, lorsqu'ils arrivent dans le cabinet, il y a déjà divorce entre ce fameux couple écriture-scripteur qui se manifeste par un blocage vis-à-vis de l'écriture. Ils sont pris la main dans le tapis.
Et pourtant, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, ils ont laissé leur trace. Ils ont laissé une trace primitive sur un papier avec un crayon, ça aurait pu être un gribouillis qu'il a porté fièrement, ou bien dans le sable, comme on a vu tout à l'heure une jolie image d'une jeune fille qui faisait des arabesques dans le sable, ou encore sur des supports pas toujours adaptés, comme par exemple le mur d'une chambre, le mur d'un salon, le miroir d'une salle de bain avec un rouge à lèvres, avec des ustensiles plus ou moins indélébiles. Mais cette trace que l'enfant a laissée, c'était avec envie, avec plaisir, de laisser sa marque, de laisser son empreinte, de communiquer un peu de lui. Et cette première trace lui a permis, en utilisant ses coordinations motrices naturelles, de découvrir des sensations motrices satisfaisante.
Alors notre mission est donc de réconcilier l'enfant à haut potentiel avec une trace écrite, en lui permettant de retrouver l'envie qui l'animait à l'époque de la trace primitive dont parlait Caroline à l'instant, en l'aidant à retrouver ses coordinations naturelles, ses sensations primitives qu'il enrichira par de nouvelles coordinations aussi satisfaisantes, voire plus satisfaisantes, et qu'il aura lui-même choisi. Dédramatiser le problème, établir une relation de confiance, encourager les progrès au cours des rééducations, évidemment ça va beaucoup l'aider, et la réconciliation se fait peu à peu. Mais souvent, l'enfant, l'ado, qui arrive dans nos consultations, a un regard négatif sur l'écriture. Alors, dans une relation triangulaire, vous voyez le problème dernièrement, c'est pas une relation de face à face. On est dans une relation triangulaire parce qu'il y a le scripteur, bien sûr, qui est l'enfant, le graphothérapeute, et puis il y a l'écriture, bien sûr. Ce regard négatif, pourquoi il est négatif? Et bien souvent, cet enfant, cet ado, qui arrive chez nous, ce regard négatif sur l'écriture, parce que l'apprentissage, eh bien, lui a semblé trop long, fastidieux, répétitif. Il est souvent ressenti comme une source de déplaisir, de frustration aussi. Il n'a peut-être pas compris que le code de l'écriture peut lui ouvrir tout le champ des possibles. C'est synonyme de liberté et d'autonomie, et on sait combien parfois c'est difficile d'être autonome hein, pour le professeur. En se référant à ce que l'on a dit précédemment, l'enfant a au potentiel à laisser sa trace primitive en toute liberté lorsqu'il était petit sur les murs de sa chambre. En rentrant dans l'écriture, il doit respecter un code. Et nous savons bien que le code, quel qu'il soit, il est très difficile à accepter pour l'enfant à haut potentiel. Et l'écriture, c'est un code. Respecter ce code est souvent ressenti comme une contrainte. Lui demande un effort qu'il ne sait pas produire de façon naturelle. Le regard des adultes aussi est très important dans ce moment-là. Il y est très sensible. Il est parfois négatif, le regard des adultes. Ça peut être le regard des parents, ça peut être le regard des enseignants. Parce qu'à côté des notes, il y a parfois des remarques qui semblent des jugements de valeur plutôt, et qui peuvent blesser l'enfant. Ça peut être 17 sur 20, moins 2, à cause de l'écriture. Ça peut être une page arrachée parce que c'est pas beau, parce que c'est sale, parce qu'il y a trop de reprises. Alors, écrire.
Alors, voici quelques phrases exprimées par les jeunes à haut potentiel dans nos cabinets.
Si j'ai mal écrit, je dois refaire pendant la récréation et je ne peux pas jouer avec les copains.
Alors là, si j'exprime cette phrase, je me sens trahie par mon écriture. J'aimerais que mon écriture soit différente. Je vais faire des efforts, je vais la retoucher, mon écriture, la reprendre, la raturer pour l'améliorer. Et malheureusement, le résultat que je vais obtenir va être bien en dessous de celui que j'aurais voulu obtenir. Alors, avec mon hypersensibilité, je vais ressentir comme une injustice tout cela. J'ai fait des efforts, mais ils sont peu visibles, voire pas du tout, et quasiment inefficaces.
C'est nul, ça ne sert à rien.
On a dit l'enfant au potentiel a besoin de sens. Si j'exprime cette phrase, c'est que je n'ai pas compris l'utilité de l'écriture. Je vis l'écriture comme une contrainte. Il faudra, on le verra plus tard, donner du sens à l'écriture. On en a beaucoup parlé ce matin. Donner du sens à l'enfant au potentiel.
Ma main ne m'obéit pas.
Et oui, la pensée va très vite et la main va bien moins vite. Ma main ne va pas au rythme de ma pensée. C'est un frein que je subis. C'est un combat entre moi et entre ma main qui va engendrer des crispations et des douleurs.
Si je me dépêche, on ne peut pas me lire et j'ai zéro.
Alors j'ai du mal à tolérer l'imperfection et comme j'ai du mal à me rapprocher du modèle, à faire comme sur le modèle, je vais avoir plusieurs solutions. Ou je vais me précipiter, et puis en me précipitant, je vais oublier une ou deux lettres, escamoter un mot, voire oublier des mots, pour me débarrasser au plus vite de cette tâche qui est très difficile. Ou alors je vais me réfugier dans la fuite, ou dans l'évitement, dans le « à quoi bon » dont on parlait professeur Rémol. Et petit à petit, peut-être, au fur et à mesure, je vais écrire de moins en moins, jusqu'à arriver à une phobie d'écriture.
Je ne termine jamais et j'ai une mauvaise note.
Alors là, toujours, pour la même recherche de perfection, mais à l'excès inverse, je vais ralentir mon tracé pour l'améliorer. Et non, du coup, je vais me contraindre, je ne vais plus aller assez vite. Et là, je ne vais plus suivre le rythme de la classe. Alors pour ces deux cas, trop lent ou trop rapide, il va falloir expliquer aux jeunes qui écrit et qui est insatisfait de sa production écrite qu'ils doivent avoir la vivacité du lièvre et la régularité de la tortue.
Ça me fait mal.
Alors, si j'ai une mauvaise position ou des crispations lorsque j'écris, forcément, ça va me gêner, engendrer des douleurs qui vont être très inconfortables à l'inscription. Alors, malgré la grande potentialité, il peut y avoir un risque d'échec, on voit. Parce qu'aujourd'hui, dans le système scolaire français, l'outil d'évaluation du savoir, des connaissances, ça va être l'écriture. Il faudra faire attention aux retours négatifs qu'on peut avoir sur l'écriture d'un enfant. Comme vous disait Catherine, comme des pages déchirées, des points en moins, des lignes à copier. Tout ça, l'enfant va le ressentir comme une injustice, d'autant qu'il essaie de faire des efforts, mais qui ne sont pas du tout payants. Et ce sera autant de souffrance pour cet enfant qui va ressentir de cette trace qu'il projette et qu'il laisse de lui. Il faut savoir qu'il ne fait pas exprès de ne pas y arriver. C'est comme quand on se cogne, je ne fais pas exprès de me cogner. Donc il va falloir l'aider sur le chemin de l'écriture.
Alors voici un exemple d'écriture. Ça, c'est une écriture qui est trop contrainte, un rapport au code qui est excessif, dans le sens d'un trop grand attachement au modèle. On voulait être parfait, d'où trop de contrôle, des crispations, des douleurs. Là, je vous présente un petit garçon qui s'appelle Alex, que j'ai eu dans mon cabinet il n'y a pas très longtemps. Alex, il est né d'une fratrie de 4, il a 9 ans, il est en CE2. Le CP a été très très difficile, alors les parents ont pris la décision de le retirer du système scolaire classique et la maman a fait la classe à Alex, à la maison, pendant un an, pendant le CE1. Et elle me dit, ça a été épouvantable au niveau de l'écriture. Le petit garçon comprenait tout très bien, très vite. Mais c'était très difficile de faire écrire. Et comme c'était des cours par correspondance, ce n'était pas à l'oral, hein, donc évidemment c'était compliqué pour la maman. Donc il arrive chez moi, il a cette écriture que vous voyez sur la gauche. Il est donc en CE2. Il vient chez moi parce que l'écriture est très très lente. Pendant les tests, il me pose des questions qui n'ont rien à voir du tout avec ce que je lui demande. Il n'est pas très attentif, mais enfin il les fait tous quand même. Avec le sourire, il semble assez détendu. Il est assez content d'être là. De toute façon, il est content parce que, d'ailleurs, comme quasiment tous, ils sont contents, ils s'occupent d'eux, ils consacrent du temps à eux, on prend en compte en fait leurs problèmes. Hein. Lorsque la maman vient le chercher après ses tests, hein, il range les crayons. Je ne vais pas du tout dont il range les crayons, mais il les range par catégorie. Voilà. Il a cette petite manie-là. Enfin, c'est intéressant. Sur la deuxième partie de la photo, l'écriture a évolué. Elle a gagné en vitesse, en organisation, dans l'espace de la page. Il n'y a plus de douleur, il y avait des douleurs. Et car nous avons également travaillé la posture, bien sûr. Et entre les deux images qui sont derrière moi, il y a 11 séances. Alors, il n'y a pas que ce type d'écriture, bien sûr, qu'on rencontre. Hein. Il y a des écritures qui sont lâchées, qui sont visibles, qui sont totalement désinvesties. Le graphisme n'a pas de structure. À l'inverse, il y a des écritures qui sont rigidifiées. La forme prédominante se fige. Nous rencontrons également des enfants dont l'écriture est rapide, mais visible, parce qu'elles sont trop déformées, ces écritures-là. Puis on rencontre parfois des enfants qui refusent totalement d'écrire. Alors en un mot, dans le respect ou dans le refus du code, l'écriture est vécue comme une contrainte. L'enfant au potentiel ressent les choses différemment. L'apprentissage de l'écriture est souvent vécu comme une addition de contraintes extérieures qui vont à l'encontre d'un geste spontané primitif et non comme un enrichissement. À ce moment-là, dans le couple écriture-scripteur, il n'y a plus de convergence qui permet justement des acquisitions et ces acquisitions de se stabiliser. En fait, il y a une compétition, il y a un conflit. Alors, comment pouvons-nous les aider?
Enfin, nous allons les amener à devenir acteurs et auteurs de leur écriture. Les amener à devenir des scripteurs autonomes et responsables en reconnaissant et en lui faisant reconnaître qu'il a un certain nombre d'atouts et qu'il l'autorise à s'en servir pour devenir plus performant. Nous allons utiliser avec eux leurs atouts parce que l'enfant à haut potentiel a tout. Alors quel potentiel allons-nous utiliser? On en a parlé beaucoup ce matin, cet après-midi. Son intelligence, sa créativité et son besoin de sens. son intelligence. On a vu tout à l'heure dans les petites phrases que ma main va bien moins vite que ma pensée. Alors, il y a un trou plein d'idées, qui est un atout, mais il va falloir l'aider à décomposer sa pensée. D'abord, penser, ensuite, comprendre, puis, écrire. Souvent, la première chose qu'ils font, c'est prendre un crayon, se jeter sur le crayon, on a à peine fini la consigne, ils sont déjà en situation d'écrire. Il faut qu'ils prennent le temps d'organiser, de développer leur cheminement. C'est Hélène Catron qui disait « Tu déroules ton raisonnement en te parlant, comme si tu dictais à ta main. » L'écriture, en fait, c'est une réorganisation du langage oral. Alors, utilisons leur potentiel créativité. Transformons l'écriture en tant que moyen pour s'exprimer. Mettons à disposition tout ce qui est possible pour qu'ils puissent s'exprimer, des papiers, des crayons, des post-it, des feutres, de l'argile, des parchemins, tout ce que vous voulez. Et avec leur créativité, ils pourront s'en servir à loisir. Ça pourra être constitué un journal pour lui, un journal interne dans la famille, un journal dans l'école, inventer une histoire, rédiger un exposé, ils sont passionnés d'exposés, réaliser une enquête, mettre en place une boîte aux lettres avec un projet, comme écrire un livre, et qu'ils puissent mettre chacun dans la classe ou dans la maison, puisse mettre ses idées dans cette boîte aux lettres. Donc tout ce qui peut être propice à développer des idées créatives qui sont en relation avec l'écriture pour utiliser l'écriture en tant que moyen pour s'exprimer. Et enfin, donner du sens. Alors tout à l'heure on a vu la phrase « c'est nul, ça sert à rien ». Oui, alors la plupart arrivent « c'est nul, ça sert à rien » ou « on me demande de tracer un trait, le trait on me demande de l'écrire juste sur la ligne d'en dessous, mais pourquoi quand je lève entre les deux lignes ?» Oui. Alors il va falloir donner un petit peu de sens. On peut commencer par leur raconter l'histoire de l'écriture. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais il y a des très bons livres, l'histoire de l'écriture, l'origine des lettres depuis leur apparition. Il faut leur expliquer clairement ce qu'on attend aussi de leur écriture. Et à quoi ça sert d'écrire ?
Eh bien, selon Robert Olivo et Agli Deslois, l'écriture a trois fonctions. La première, c'est la fonction de communication. Créer un lien entre le monde intérieur du scripteur, donc ses pensées, ses impressions, ses sentiments, et le monde extérieur. Cette relation s'établit dans le silence et la solitude. L'enfant va construire à la main, difficilement, patiemment, la forme des lettres qui contient le sens des mots et des phrases. Un temps de réflexion est nécessaire pour préparer le contenu du message. Écrire, c'est s'engager. La communication manuscrite crée un lien incontestable entre son auteur et le lecteur. Deuxième fonction, c'est la fonction instrumentale. L'écriture, c'est l'instrument de la pensée qui aide à mettre en œuvre les idées, à trouver le mot juste, à réfléchir. L'écriture rend visible la parole. C'est un langage muet. Troisième fonction, c'est la fonction de représentation de soi. Chaque personne a une écriture qui le caractérise. Elle permet de l'identifier. Il m'arrive souvent dans le cabinet de dire aux enfants, tu es un être unique, ton visage est unique, ton écriture est unique, tout comme tes empreintes digitales, sans ça, personne d'autre. Le scripteur sera sensible aux commentaires qu'elle suscite parce qu'il le concerne en tant que personne. Elle est son incarnation.
Alors avec leur rapidité de compréhension et la vôtre, on va aller très vite, ils vont pouvoir réutiliser toutes les informations communiquées. À quoi sert l'écriture ? Comment vais-je dicter à ma main ? Et comment puis-je utiliser l'écriture au quotidien ? Alors bien évidemment, dans le cabinet également, si l'écriture est en difficulté, Si les formes sont abîmées ou illisibles, il faudra les restaurer. Si la position est inconfortable ou douloureuse, il va falloir la soulager, trouver la position la plus confortable pour lui. Si la vitesse est insuffisante ou précipitée, il faudra la réguler. Donc la trace, petit à petit, va demander moins d'efforts. Le geste va se libérer peu à peu des contraintes. Et l'écriture va devenir lisible et l'autoriser à communiquer tout en restant maître du jeu. Donc il est important de l'accompagner de façon positive, de valoriser ses progrès, si minimes soient-ils au départ, mais d'être présent à ce moment-là et de façon positive. Et c'est alors que le regard de son auteur, une fois que l'écriture a retrouvé sa vitesse, sa lisibilité et qu'elle est confortable sans douleur, que le regard de son auteur va être transformé, tout comme celui de son entourage, qui va devenir de plus en plus positif. Il va pouvoir reprendre confiance en lui, utiliser pleinement son potentiel, se projeter, laisser sa trace, être pleinement acteur et auteur de ce qu'il écrit.
Alors on va l'amener, cet enfant, à ne plus être le vilain petit canard, à se regarder sous un jour différent. On va l'amener à oser s'exprimer par une trace écrite qui véhicule ses idées, ses sentiments, ses réflexions. On va l'amener à s'accepter en laissant une trace, donc à exister. Merci beaucoup.
On va faire une petite pause.
Comment?
Une grande pause.